Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Ils sont au restaurant à dîner. Charles André voit une table en face de lui, un homme qui grignotonne sur un morceau de papier froissé. Il semble être de taille moyenne, dans les 30 ans, le visage osseux, les cheveux gris, habillé d'un vieux costume râpé, marron. Tout en écrivant, il fume la pipe. De temps en temps, il observe le frère et la sœur. L'homme se lève et va vers eux, le papier froissé à la main. Charles André rougit. L'homme lui dit :
Tu m'intrigues, toi et la petite. Qu'est-ce que vous faites dans ce quartier ?
Charles André rougit.
Ne crains rien, ce n'est que de la curiosité. Je suis un artiste.
Moi aussi, enfin, j'essaye de l'être.
T'es poète ?
Non, écrivain.
L'homme fait la grimace et lui dit : Ah, moi je suis poète. Ça, c'est du bel art. Tu as déjà été édité ?
Oui, mais une fois. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais j'écris.
Tu es en cabale ? Avec ta bonne amie ?
Non, c'est ma sœur.
Mazette. Vivre avec sa sœur.
Charles André sourit gêné.
Et quoi ? Qu'est-ce que tu écris en ce moment, le monsieur ?
Pas grand-chose. Je suis en perte d'imagination.
Je peux m'asseoir ?
Oui. L'homme s'assoit.
Et dit : Tu me payes l'absinthe ?
Oui. L'homme fait signe au bistroquet.
Une absinthe ! Et qu'est-ce que tu es venu faire dans ce trou pourri ? Trouver de l'inspiration ?
Non, je suis venu de Lyon. Et nous sommes arrivés ici, par hasard, en cherchant une chambre.
Et que comptes-tu faire ?
J'aimerais trouver du travail dans un journal.
C'est se prostituer. Écoute, tu écris des romans, des poèmes. très, pas très bouilli.
Malheureusement, j'ai plus d'inspiration.
C'est pas grave. Il existe des tas de choses pour t'aider à la trouver.
Et comment?
Pas des petites choses, mais des choses plus fortes que l'absinthe.
Quoi? Dis-moi, ça m'intéresse.
L'opium, ça te va?
Oui, ça peut. Vous redonner le goût d'écrire, je suis pas d'accord. Je suis d'accord.
Tu viens chez moi?
Oui, je veux bien.
Et ta sœur?
Elle dit. Je suis avec vous.
Elle écrit, elle aussi?
Non, elle veut être comédienne.
Ah. J'ai justement un ami qui cherche des jeunes filles pour faire des tableaux figuratifs.
Elle lui demande, qu'est-ce que c'est?
L'on représente des scènes, des tableaux vivants. Les comédiens miment ce qu'ils ont censé faire. C'est très intéressant. Il faut avoir un beau corps. Cela vous intéresse?
J'ai déjà fait de la figuration. Je ne dis pas non.
Bien, je vais vous présenter la petite demoiselle qui s'appelle
Apolline. Et mon frère Charles-André.
Moi, c'est Paul Volaire.
Charles-André lui dit, nous, c'est Beaumandin.
Alors, on va finir la soirée chez moi?
Elle lui dit, oui. Et ils se lèvent tous les trois et sortent du café.
Nous allons un peu plus loin.
Ils le suivent. La rue est tout aussi triste et lépreuse. Ils entrent dans un petit immeuble de 3 étages, étroit et gris. L'allée est noire. Ils montent jusqu'au 2e étage. Il y a 2 portes-palières par étage. L'homme va ouvrir celle de droite. Ça sent l'encens et autre chose. On ne peut pas dire que c'est désagréable. Petit couloir qui donne sur une autre porte vitrée, cachée par un gros rideau bordeaux. Paul va ouvrir cette porte.
Entrez. Ils entrent.
La pièce est de taille moyenne. Il y a des tapis à terre. La fenêtre est fermée par un double rideau bleu foncé. Il y a dans un coin de la pièce une table basse avec des accessoires pour l'opium et des coussins de multicoloris. Et contre un mur, une commode.
Asseyez-vous.
Le frère et la sœur, gênés, vont s'asseoir sur les coussins à côté de la table.
Paul va se mettre en face d'eux.
Il leur dit, vous savez ce que c'est que ça? C'est ce qui va vous ouvrir l'esprit, le libérer de la pesanteur. Vous êtes libre de toute contrainte, vous n'avez plus de limites. L'esprit est roi. Roi. Avec ça, la création est un jeu d'enfant. Vous l'essayez?
Jean-André lui dit. Oui, je connais un peu.
Et la jeune fille?
Je veux bien.
Il prépare 3 pipes.
Donne une pipe à chacun. La première pipe les fait tousser. Les yeux pleins. Les narines piquent. Ils se sentent engourdir. Apolline aimerait appeler Charles André, mais elle ne peut pas. Ils se sont avachis. Le corps se calme. La sueur sur les visages. L'on tousse, les yeux qui pleurent toujours. Puis, les premières difficultés ont disparu. L'on voit des choses trembler. Double. Trouble. Trouble. Ça se déforme. Des couleurs. Des couleurs. Des couleurs, des couleurs. Et on ne sent plus son corps. On est léger, léger, léger. L'on vole. Les oreilles bourdonnent. L'on entend des échos. Des bruits cristallins. L'on plane. L'on plane. L'on plane. L'on plane. Puis, le calme. Lorsque Charles André revient à lui, il a la bouche sèche, sèche, froid. Il voit ce qui l'entoure avec surprise et dégoût, impression de peser des tonnes, d'avoir le souffle court. Apolline, qui est près de lui, est avachie et ne semble pas le voir. Paul le regarde bien et lui dit « Je ne peux pas t'en donner encore une. Ça coûte cher. » Une heure plus tard, ils sont encore tous les trois dans la fumée d'opium, après avoir fini, une douce lassitude les prend. Paul dit à Charles-André, « Ce que j'aime en toi, c'est ton élégance. Je suis sûr qu'on te prend pour quelqu'un de la haute. » Charles-André lui dit, « Mais je suis de la haute. Nous sommes les enfants de Monsieur Constant de Beaulandin. » Paul lui dit, « J'aimerais faire quelque chose pour toi et ta sœur. Vous aider en quelque sorte. » Charles-André lui dit, « Je vous remercie, mais comment ?»« En me rendant un petit service, et en échange, je vous ai dit tout ce que vous écrivez, et je présente votre sœur à un directeur d'un grand théâtre. »« En échange de quoi ?»« Rien. Vous épousez Madame de Saint-Auban, une des plus grandes fortunes de France et même d'Europe. »« Et pourquoi devrais-je épouser cette personne ?» Parce qu'elle est riche et que sa fortune m'intéresse. Alors pourquoi ne le faites-vous pas? Vous voyez, moi, dans les salons, je n'ai pas la classe.
Donc, il faut une personne pour me remplacer. Et j'ai pensé à vous.
Comment cette idée aussi bizarre vous est-elle venue?
Mon père était jardinier de Madame de Saint-Auban. J'ai passé mon enfance à l'office. J'ai vraiment aimé Mathilde. Mais je me suis très vite rendu compte que je n'étais pas à sa hauteur. Que même si j'avais de la fortune, je n'arriverais jamais à me faire aimer par elle, à entrer dans son corps, à conquérir son corps, si tu veux. Les années ont passé, elle s'est mise à me dédaigner de plus en plus et à m'ignorer. Mais moi, mon amour s'est transformé en désir de dominer sa vie. Elle s'est mariée, puis est devenue veuve. Alors j'ai eu l'idée, c'est de la faire marier à un homme du monde que j'aurais choisi. Vous êtes beau, jeune, avez un nom, j'ai la fortune.
De la fortune? Et qui vous vient de quoi?
De certaines connaissances que je fais entre l'Orient et l'Occident. Connaissances peu flatteuses, mais qui peuvent rapporter gros.
Et que penserait votre famille de votre union avec la banque de Saint-Auban?
Je n'ai pas du tout l'intention de me marier avec qui que ce soit, même pour faire votre fortune.
Même pour cela.
Tant pis alors. Pas de livre édité, ni de pièces à jouer.
Charles-André se lève, ainsi que sa sœur.
Il se sent pas très en forme, les jambes qui flageolent. Paul lui dit,
« Vous voulez vraiment pas faire la connaissance de Mathilde ?»«
Non. »«
Dommage. Elle est très belle, vous savez. Mais si vous changez d'avis, je pourrais toujours vous la présenter. Et je suis souvent au restaurant où vous m'avez rencontré. »«
Je n'ai pas l'intention de changer d'avis. Vous vous êtes trompé de personne. Je suis beau mandin, d'une famille fortunée et estimable de Lyon. »
Paul se lève.
Va vers lui, lui prend au bras.
Oui, pardonnez-moi, je me suis trompé. J'aimerais c'est que nous quittions bons amis, vous et votre sœur. Si vous voulez encore une soirée comme celle-là, je vous en offrirai.
Charles-André lui demande, sans rien en échange?
Je ne suis pas Méphisto de Faust, tout de même. Et vous avez comme ange gardien une si jolie sœur. Non, c'est simplement pour me faire pardonner.
Alors, ami, Charles-André lui dit, nous verrons. Il se fait tard.
Je vous accompagne.
Et il les mène jusqu'à la sortie de l'appartement. Dehors, il fait jour. Les gens sortent pour aller à leur occupation. Sont en premier d'aller au café boire un verre. Apolline lui dit,
qu'est-ce que j'ai sommeil? Je dors debout.
Arrivé à l'hôtel, ils montent à leur chambre pour dormir. Ils se sont couchés dans le lit en gardant en partie leurs vêtements. Ils se sont réveillés, la tête lourde, à 14 heures,
Le soleil inonde de sa lumière la pièce. Apolline lui dit
« Oh mon Dieu, quelle nuit! Tu as faim ?»«
Oui, un peu. » Elle se soulève et lui dit
« Quoi? Il y a dans le tiroir. Le billet sur la table. Un bout de pain et du fromage. »
Et elle se lève.
Se donne un coup de peigne à ses cheveux et défroisse sa robe. Lui se lève. Défroisse ses vêtements aussi.
Elle sort du tiroir de la table une assiette où il y a un bout de fromage dessus, fromage de chèvre, et un morceau de pain. Elle prend un couteau, dépose sur la table. Elle découpe le pain en deux et le fromage aussi. Puis ils s'assoient à table tous les deux, l'un à côté de l'autre. Chaque homme mange sa part et lui dit « Notre premier repas de pauvre. Nous avons de l'argent pour combien de jours ?» Il hausse les épaules et lui dit « Je ne sais pas, une semaine peut-être. » Elle lui demande « Et après, que ferons-nous ?» Il faudra trouver du travail, et rapidement, ou rentrer à Lyon. « Ah non alors, il n'en est pas du tout question. Nous rentrerons à Lyon que glorieux. »« Bon, il faut trouver quelque chose. Tes écrits, tu les montres ?»«
Non, je ne sais pas. Je ne trouve pas assez bien. Il faut que j'écrive autre chose. »
Elle se lève. Et range l'assiette dans le tiroir. Elle lui dit
« Eh bien, c'est le moment d'écrire. Si tu crois que c'est facile, en ce moment j'ai le cerveau vide.
Rien, rien. »
Tout en faisant le lit, elle lui dit « S'assois. On tourne en rond. On tourne tellement en rond que je crois que le lecteur finir par s'endormir. Tu te rends compte que nous risquons de jouer les illusions perdues, alors que je suis venu à Paris, moi, pour jouer au moins Sarah Bernhardt. » Chalandré lui dit
« Tu n'en es pas encore là. »
Le soir, il revoit Paul à Tamblay qui les s'enlit. Apolline dit à son frère « Tu ferais peut-être bien de lui dire oui. »
Charles-André lui répond « C'est cela? Tu vends ton frère ?»«
Non, mais Paris vaut bien une messe. » Il lui répond « Ça a déjà été fait. Si tu veux les mots des autres, tu vas avoir des ennuis. »
Elle hausse ses épaules et lui répond
« Qu'est-ce que j'y peux si mon frère n'a plus d'inspiration ?» Il n'en est tout de même pas resté bloqué, là, à la page 338.
Je te trouve vulgaire depuis quelque temps, elle lui dit.
J'ai décidé d'agrandir mon répertoire.
Il lui dit, eh bien, va pas trop loin, car tu risques de te perdre dans le service.
Elle soupire,
et hausse ses épaules. Une fois dans leur chambre, il lui dit « Arrêtons de nous chamailler, je vais essayer d'écrire. » Le lendemain matin, après le petit déjeuner, il se met à table pour écrire. Apolline, pour ne pas le gêner, va faire un tour. Lorsqu'elle revient à midi, il est allongé sur le lit à fumer une cigarette. Tout en enlevant son chapeau, elle lui demande « Alors, qu'as-tu fait ?»« Rien, pas une ligne, j'ai absolument aucune idée. » Elle va s'asseoir sur une chaise. Elle lui dit « Qu'allons-nous faire ? » ?»« Je ne sais pas. » »« Et toi, le théâtre ? » ?»« Que m'en veux-tu ? » ?»« Je connais personne. » »« Essaye encore d'écrire. » »« Je ne veux pas entrer en Lyon sans avoir rien fait. »
Elle va se mettre à genoux au pied du lit, près de son visage.
« J'ai peur. » Je serais très malheureuse si nous étions obligés que tu fasses la connaissance de cette femme. Je vais écrire, tu verras. Malheureusement, le soir, il n'a rien fait. Et il retourne au restaurant. Là, au restaurant, Paul les salue, se lève pour aller les saluer. Tout va comme vous voulez. Ils ne répondent pas. Paul continue. Si vous voulez, on peut faire quelques pipes chez moi. Ils ne répondent pas. Paul leur dit. Ça peut aider l'inspiration à venir. Charles-André soupire. Et lui dit « De toute façon, nous n'avons pas d'argent. » Sa sœur le regarde. Paul dit « Qui vous parle d'argent ? C'est un cadeau. Terminez votre repas et venez avec moi. » Paul retourne à sa place. Apolline dit furieuse « N'aurait jamais dû accepter. Ces pipes vont nous coûter cher. Il cherche à t'avoir à sa merci. » Charles-André lui dit « Il ne m'aura jamais. » Sa drogue va me donner de l'inspiration. Elle hausse les épaules et lui dit « Ça te donnera surtout mal à la tête, un dégoût de tout. » Ils ont fini de manger. Charles-André se lève et lui dit « Si tu veux, tu peux rentrer. Moi, je vais avec lui. » Elle se lève et lui dit « Non, je vais avec toi. Nous sommes dans la même galère. Je subirai ton destin. » Ils vont vers Paul. Paul dit « La petite va avec nous ?» Charles-André lui dit « Oui, elle veut rester avec moi, cela ne t'ennuie pas. »«
Non, bien au contraire. Alors allons-y. »
Et ils sortent du restaurant. Ils ont fumé tous les trois. Apolline a accompagné son frère. La drogue leur a fait plus d'effet que la première fois. C'est prodigieux. Charles-André a l'impression que son esprit est libre, qu'il n'a plus aucune limite. Il se sent capable de créer des choses qui dépassent l'intelligence. Il voit, il entend des formes, des choses, des bruits comme jamais on en a vu, et ceci dans des couleurs extraordinaires. C'est flamboyant. C'est un feu d'artifice. Et les sons qui semblent venir de la voie lactée, d'un paradis. Et ses femmes, ses formes, et le plaisir qu'a son corps. Jamais il n'y a autant joui d'une façon si profonde. Tout d'un coup, il se réveille dans un monde gris, sans relief, fade, triste, sans jouissance. Le contraste est si grand qu'il a envie de mourir. Sa sœur est là, près de lui, qui le regarde. Elle aussi, le visage bouffi d'une personne qui vient de loin. Paul est en face d'eux et leur dit « Il est tard. Il est temps que vous repartiez. » Durant toute la journée, ils sont incapables de dire ou de faire quoi que ce soit. La réalité leur fait mal. Les jours passent. Malgré leur dégoût, ils ne peuvent refuser l'offre de passer la soirée avec Paul. Et c'est toujours la même griserie. Toujours la même griserie qui leur vient. Puis, le matin, c'est aussi fade. Ils passent leur journée dans leur chambre à ruminer du noir. Leur plume leur a coupé la faim et se contentent de grignoter de petits biscuits achetés pour quelques sous à la boulangerie et à boire un peu de vin rouge. Ils parlent peu. Les yeux gobuneux, maigrissent, ont des gestes lents. Un rien les met en grogne et pleure. Il arrive à Charles-André que l'effet de l'opium le fait bander et qu'il se masturbe. Mais autrement, il n'en aurait aucun désir. Donc leur corps n'a qu'une fonction, c'est de demander l'opium. Leur économie file vite, mais ne s'en rend pas compte. Et d'ailleurs, ils seraient incapables de réagir. Pour eux, Paul est devenu celui qui leur donne ce qu'ils ont besoin. Un soir qu'ils sont chez Paul, Paul leur dit « Cela suffit. Vous avez suffisamment été dégradé. Après, ce serait trop dur pour vous refaire une santé. Je ne vous donne donc plus d'opium. Il faut payer. » Le frère et la sœur sont effondrés. Charles-André demande « Combien ?»«
Très cher.
Je payerai plus tard.
J'ai pas confiance. »
Le frère et la sœur sont tous deux tremblants, furieux, se penchent d'arrêt en avant, sans arrêt. Le frère dit,
il nous en faut absolument.
Paul ne répond pas. Il reste un long moment comme ça. Puis Charles-André se penche menaçant avec son poing.
Il le prend au collet, le secoue et lui crie, tu vas nous en donner, tu vas nous en donner. Où on se sert?
Tu peux chercher, il n'y en a pas. Charles-André lâche Paul et se lève. Et tourne en regardant autour de lui. Sa sœur le regarde, impassible.
Puis, il court vers la commode, ouvre les tiroirs. Mais il n'y a dedans que des vêtements. Il les jette à terre. Puis, sort de la pièce. Il revient.
Et crie, où tu l'as mise?
J'en ai pas. Va en chercher. Je ne peux pas, je n'ai pas d'argent.
Mentor, tu m'as dit que tu étais très riche.
Pas pour cela. Paye et tu auras.
Combien?
Très cher.
Dis.
Mathilde de Saint-Auban. Je veux 10% de sa fortune et tu auras toute la drogue que tu voudras.
Apolline dit, et moi?
Toi aussi, puisque tu as aidé ton frère.
Elle lui dit, je ne veux pas que cette femme ait mon frère. Paul lui répond,
on ne peut pas faire autrement. Mais il fera semblant si tu le désires. Alors, vous êtes d'accord?
Le frère s'approche d'eux pour s'asseoir à côté de sa sœur.
Paul leur dit, « Bien, nous allons vous refaire tout d'abord une santé. Sur les bords de Seine, je connais un aubergiste de mes amis qui vous hébergera à vous, mes frais. Il a reçu l'ordre de bien vous faire manger. Vous prendrez des bains tous les jours. Promenade et une pipe par jour, pas plus. Surtout mangez bien et ne maigrissez pas. Il faut que dans 2 mois, vous soyez frais et dispo lorsque je viendrai vous chercher. Cela vous convient-il?
Oui.
Bien. Demain matin, vous venez en bas de chez moi avec vos bagages. Nous partons à 9h.
Il sort de sa poche une liasse de billets, les tend à Charles-André.
Et pour payer l'hôtel. Mais attention, c'est que pour payer l'hôtel. Ne cherchez pas à m'avoir. Sinon, j'en referai à votre père. Je connais un homme une personne qui est en affaire avec lui. Et qu'il connaît très bien.
Charles-André met les billets dans sa poche et lui dit, ne vous en faites pas. Paul sourit, lui dit,
très bien. Maintenant, vous allez me signer un papier disant que vous devez me remettre, après votre mariage avec Madame Mathilde de Saint-Auban, la somme de, qui représente 10% de sa fortune. Je l'ai appris par un collaborateur de son défunt mari qui a été renvoyé. Bien entendu, je n'ai pas mis sur le papier 10% de la fortune, mais la somme. Si l'on vous demande le pourquoi de cette dette, vous direz dette de jeu. Vous voulez signer?
Oui. Paul sort un portefeuille de sa veste et un crayon. Il ouvre le portefeuille et en prend une feuille qu'il déplie et met sur la table pendant tendant le crayon.
Signé.
Charles-André signe. Pendant que Paul range le papier dans son portefeuille, Charles-André lui demande « Et si je ne peux pas vous donner cette somme ?» Paul lui répond
« C'est une dette. De toute façon, il faudra donner la somme. »
Mais comment?
Ne vous en faites pas. Lorsque nous en serons là, je vous conseillerai. Je serai toujours près de vous. Et puis, votre sœur sera là, elle aussi, pour vous aider.
Tout ceci a excité le frère et la sœur, ce qui les a fait oublier un instant l'opium.
Paul leur dit, je crois que vous avez mérité une pipe.
Charles-André lui dit, je croyais que vous n'en aviez plus.
Oui, mais je peux aller en chercher. Mais
À partir de maintenant, vous n'aurez plus droit qu'à une petite dose. Je ne veux pas que vous ressembliez à des fantômes. Vous devez séduire et pas faire peur et rester lucide. Attendez-moi, je reviens avec ce qu'il nous faut.
Et il sort de la pièce.
Le lendemain matin, comme leur a dit Paul, le frère et la sœur se sont levés, ont fait une bonne toilette, préparé leurs bagages, mis du linge propre, puis ont pris un bon petit déjeuner avec du café noir, réglé la chambre et sont partis à pied vers chez Paul. Ils l'ont trouvé en bas de chez lui, devant un fiacre. Il les a fait rentrer et sont partis. Le trajet se presse presque sans parole. Tout a été dit. Le carrosse va devant une auberge, sous la berge de la Seine, une petite maison grise de 2 étages. Le bas fait restaurant-café. C'est rustique. Derrière l'auberge, il y a un bout de terrain qui donne sur la Seine. Ce terrain, le dimanche, sert de guinguette. Ils sortent de carrosse et entrent dans l'auberge. C'est sombre. Il y a des tables en bois recouvertes de nappes à carreaux blancs et rouges. Un petit homme gros, à moustache noire, casquette, cigarette au bec, les joues rouges, l'air jovial. Par-dessus ses vêtements, un tablier marine.
Bonjour, monsieur Paul. Bonjour, Auguste. Je t'amène les 2 pensionnaires, ce que je t'ai dit. Il faudra bien me les requinquer. Ne vous en faites pas. J'ai fait l'élevage des oies.
Il regarde le frère et la sœur.
Bonjour. « Je suis Auguste. Soyez le bienvenu dans ma modeste auberge, la belle marinière. Nous allons bien nous occuper de vous. Allez, vous allez voir. »
Paul leur dit « Bon, je vous laisse. Reposez-vous. » Tout d'un coup, Charles-André a une pensée. En un éclair, il se voit sans pipe.
« Mais comment ?»
Paul comprend, lui dit.
« Ne t'en fais pas. Tu y arriveras très bien, avec une pipe par semaine. On va te requinquer. Sa femme, qui cuisine, est du Périgord. »
Et il les quitte.
« Je vais vous montrer vos chambres. »
Ils le suivent. Monte un escalier de bois. Au premier étage, il va ouvrir une porte.
Entrez.
« Voilà votre chambre.
Petite chambre rustique, mais propre. Auguste leur dit.
C'est pas le luxe, mais vous serez bien. Et de la fenêtre, on voit la rivière.
Il y a un gros hydrogon rouge sur le lit à une place, une lampe à huile sur la table de chevet, une table de toilette, une armoire.
C'est très bien, je vous remercie. La chambre de votre sœur, c'est elle qui est à côté de la vôtre. C'est la même, sauf que l'hydrodon est bleu.
Puis Auguste leur dit,
« Bien, je vous laisse. Vous reposez et rangez vos affaires. À 1 heure, ma femme viendra vous apporter votre repas.
Cela vous va ?»«
Oui, monsieur, merci. » »« Vous mangerez dans vos chambres respectives ?»
Jean-André regarde Pauline qui dit, « Si nous mangeons dehors ?»«
Pas de problème. »
La première semaine se passe calmement. Ils occupent leur journée à bien manger. La femme de l'aubergiste est une brave cuisinière. C'est une femme petite, grosse, dans les 50 ans, l'air jovial, les cheveux à chignon grisonnant. Après manger, ils vont faire un tour le long de la Seine. La drogue ne leur manque pas trop. Puis, ils sont bien surveillés. Et l'abondance de nourriture les apportit un peu. À part eux, il n'y a aucun pensionnaire. La semaine, des pêcheurs viennent boire et manger un morceau. Le dimanche et le samedi, les Parisiens viennent passer un moment pour boire et manger et danser. Un petit cortège ou simplement un orgue de barbarie suffit. La première semaine, le frère et la sœur se sentaient gênés d'être envahis par des inconnus et tout ce bruit. Ils voulaient s'isoler. Ou fuir. Mais juste au moment où ils allaient quitter l'auberge, un jeune homme dans les 18 ans, bien mis, grand, blond, tout simplement, lui prend la main et lui dit « Venez, allons danser. » Surprise, elle se laisse guider par lui. Son frère Boudor les suit. Au milieu de la musique, des rires. Ce qui l'agaçait lui plaît. Charles-André est poussé par une jeune fille qui le mène et il danse lui aussi.
René, occupe-toi de là.
Ils ont passé une journée agréable à danser, rire, manger. Manger de la friture. Boire du vin blanc. Enfin, tout ce que l'on fait dans une guinguette au bord de l'eau, faisant une manche d'épinal.
Ah ben c'est ce que t'appelles arriver à l'heure, toi.
Oh ben ça alors, 3 mois de mariage et 2 marmots. Bonjour Marie.
Bonjour. Mais
ça vient, félicitations.
Ah, ils sont la cause innocente de notre retard.
C'est leur deuxième semaine, leur santé va mieux. Tout en marchant le long de la rivière, Apolline demande « Qu'allons-nous devenir ?» Il lui répond « Nous ferons ce qu'il nous a demandé. » Elle lui dit « Je ne veux pas être le complice de Paul. Peut-être ferions-nous mieux de partir ?» Il lui dit « Tu oublies le papier que j'ai signé. Et puis, je connais quelqu'un qui a en affaire avec mon avec père. Non, pour le moment, il vaut mieux que nous restions bien sagement. Faire ce qu'il nous dit. » Elle lui dit « Je déteste Paris. Nous n'avons eu que des malheurs. Et c'est ça, triste. » Il lui dit « Nous n'avons connu que le mauvais versant de cette ville. Bientôt, nous connaîtrons l'autre. » L'abondance de nourriture, une nouvelle vie dans un endroit agréable leur fait presque oublier le paradis artificiel. Mais Paul tient à ce qu'il ne l'oublie pas tout à fait. Une fois par semaine, il vient et leur apporte chacun une pipe. Avant de les quitter, après avoir fumé dans la chambre de Charles-André, Paul demande « Est-ce que vous écrivez ?»« Non, t'achètes d'écrire quelque chose. J'y ferai éditer. Ce sera une bonne carte de visite. Écrivez quelque chose de gentil, de très féminin. Je vais essayer. » Le lendemain matin, après avoir pris le petit déjeuner sur la terrasse, il dit à sa sœur « Je vais tâcher d'écrire quelque chose de féminin, quelque chose de subtil et de fin, comme il dit. » Il quitte sa sœur pour aller dans sa chambre écrire. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la 12e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Thank you.
La CVRP, Cinéma Vidéo Radio Production, vous a présenté une cassette OB.
Canu.
La radio utile.